Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa économique et commerciale. Major Prépa t'accompagne tout au long de l'année pour te permettre de te révéler au concours.
Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de podcast Major Prépa. Je suis Florine, une ancienne étudiante de l'ESSEC et passée par une classe prépa ECE. Dans ce podcast, nous allons parler de l'Espagne et de son soft power. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir les raisons qui font que l'Espagne est un pays très attractif et rayonnant à l'échelle mondiale. Tourisme, sport, culture, économie, tu vas voir, les exemples sont multiples. Pour rappel, le soft power signifie « puissance douce ». C'est un concept défini par Joseph Nye en 1990 et qui représente les critères non coercitifs de la puissance. À l'inverse, on trouve le hard power qui regroupe l'armée, la diplomatie et les pressions économiques. En espagnol, on parle de poder blando y poder duro. On va essayer de faire le tour des 10 éléments principaux qui constituent le soft power espagnol. Démarrons tout de suite avec le premier aspect de son rayonnement, qui est le tourisme. Effectivement, ce pays européen est tout d'abord au cœur du dispositif Erasmus, ce qui en fait une destination privilégiée de centaines de milliers d'étudiants. Mais pas que, puisque l'Espagne sait jouer de ses atouts et a développé son économie grâce au tourisme. Elle s'est organisée pour attirer de nombreuses politiques publiques et aujourd'hui le tourisme représente environ 10% de son PIB avec plus de 58 millions de touristes par an qui se répartissent sur plus de 8000 plages. D'ailleurs, le pays a mis en place la Marca España, un ensemble de politiques publiques regroupées sur ce label qui ont pour objectif de promouvoir l'Espagne à l'échelle internationale sur la scène touristique. Le pays a donc totalement conscience de l'aspect touristique dans son soft power. Le deuxième élément qui fait rayonner l'Espagne, c'est bel et bien le sport. Effectivement, l'Espagne se démarque dans de nombreuses compétitions sportives et fait rayonner ses sportifs et ses équipes dans le monde entier. Je suis sûre que tu penses au football avec le Barça et le Real. C'est vrai, mais il n'y a pas que cela. Le football, venons-en justement, il est vrai que le FC Barcelone et le Real Madrid contribuent fortement à l'attractivité des villes avec leurs équipes connues mondialement et les stades qui figurent parmi les plus visités au monde. Mais n'oublions pas non plus le tennis avec Rafael Nadal qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire, qui a remporté de nombreux grands chelems et qui a représenté son pays lors des Jeux Olympiques en remportant une médaille d'or pour l'Espagne en 2008 et en 2016. La Formule 1 aussi compte beaucoup en Espagne avec Fernando Alonso qui a été en 2005 le premier champion du monde de F1 de l'histoire de l'Espagne. Il a permis de populariser et démocratiser la F1 en Espagne. On le surnomme d'ailleurs le taureau des Asturies. Et n'oublions pas non plus le cyclisme avec des coureurs célèbres comme Alberto Contador, mais également la Vuelta, le Tour d'Espagne, qui est un des trois grands tours avec le Tour de France et le Tour d'Italie, où s'affrontent environ une quarantaine d'équipes mondiales. Le troisième axe de rayonnement du soft power espagnol est bel et bien la musique et la danse. On se limite bien trop souvent au flamenco, mais pourtant la musique espagnole est d'une grande richesse et rappelle le folklore culturel de l'Espagne. Les gitanos se sont installés en Espagne durant la période baroque et ont fortement influencé les chants et les danses. Bien évidemment, on trouve le flamenco, qui est une danse et un genre musical né en Andalousie et issu d'un mélange de différentes cultures. Le chant est traditionnellement appelé le cante hondo, le chant profond, et il est accompagné par des claquements de mains, de pieds, mais aussi par des percussions comme les castagnettes. Le flamenco est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Aujourd'hui, il existe encore de nombreuses écoles prestigieuses qui enseignent cette discipline. Au-delà du flamenco, on a également le paso doble, qui est une danse rapide de passion, qui est née dans un contexte de corrida en Espagne. En effet, la musique rythmée qui accompagne aujourd'hui la danse était à l'origine jouée lors de l'entrée des toréadors dans l'arène. Aujourd'hui, le paso doble a largement dépassé les frontières du pays. Mais sache que les danses, les langues et les musiques régionales étaient interdites sous la dictature de Franco. Quatrième axe de rayonnement de soft power espagnol, la peinture et la sculpture, qui est un incontournable du pays. Je suis sûre que depuis que tu étudies l'espagnol, on t'a forcément parlé de Picasso, de Velázquez, etc. En effet, dans son histoire, l'Espagne regorge de peintres et de sculpteurs très talentueux qui ont fait parler d'eux dans le monde entier. Commençons par Pablo Picasso, qui est un peintre, un dessinateur, mais aussi un sculpteur, considéré comme le fondateur du cubisme et l'un des piliers de l'art moderne, avec évidemment un succès qui ne s'est jamais éteint. C'est un artiste majeur du XXe siècle pour ses œuvres, mais aussi pour ses engagements politiques. Notamment l'œuvre Guernica, mais aussi Les Demoiselles d'Avignon, figure parmi les œuvres les plus connues de l'artiste à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, les musées du monde entier continuent de convoiter Picasso et les expositions à son sujet se multiplient et ne s'arrêtent pas. Deuxième artiste, Velázquez, un peintre baroque mort en 1660, est considéré comme l'un des principaux représentants de la peinture espagnole. C'était l'un des peintres officiels de la cour du roi Philippe, et la peinture Las Meninas est même un trésor national qui n'a pas le droit de quitter le pays. C'est l'une des toiles les plus commentées de l'histoire de la peinture occidentale, et sa peinture a donc été décisive pour l'histoire espagnole. Mais l'Espagne, c'est aussi des musées et parfois même à ciel ouvert. À Barcelone, on trouve en effet les œuvres de Gaudí, le parc Güell, mais également la Sagrada Familia, qui sont tous deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont des lieux touristiques incontournables de la ville. La Sagrada Familia, c'est plus de 3 millions de visiteurs et plus de 2 500 000 pour le parc Güell en 2015 notamment. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le musée du Prado à Madrid et celui de la Reine Sophie font partie des musées les plus importants au monde. Ils sont célèbres notamment pour les œuvres qu'ils exposent, Guernica de Picasso, El 3 de Mayo de Goya, Las Meninas de Velázquez, etc. Le cinquième élément qui contribue au soft power espagnol, ce sont les fêtes célèbres en Espagne. Effectivement, de nombreuses traditions continuent à se perpétuer. En juillet, à Pamplune, sont célébrer les fêtes de Sant Fermín, qui sont considérées comme les fêtes les plus importantes au monde. On a environ 3 millions de personnes qui se réunissent pendant 9 jours, ce qui leur donne la troisième place en nombre de participants après le carnaval de Rio et la fête de la bière à Munich. N'oublions pas de parler de la Tomatina, qui est la fête connue pour sa bataille de tomates et qui a obtenu le label de fête d'intérêt touristique international, qui réunit fin août à Buñol des milliers de participants du monde entier. Sixième élément qui contribue au rayonnement de l'Espagne, évidemment, la gastronomie et le mode de vie espagnol. L'une des spécificités de l'Espagne, c'est son mode de vie qui est souvent décrit comme plus détendu. Effectivement, le rythme est différent, ce qui permet aux touristes de bénéficier de journées plus longues et c'est un atout majeur. Pour beaucoup, l'Espagne est synonyme de vacances et de détente, mais le pays régale avant tout les gourmands grâce à sa gastronomie riche et savoureuse, basée sur un esprit bien particulier, le partage. Pour ne citer que quelques plats, la paella, qui est sans doute le mets espagnol le plus emblématique, mais il y a aussi la tortilla de patatas, qui n'est pas moins connue, les tapas, qui illustrent parfaitement la philosophie de partage propre à l'Espagne, le célèbre jamón ibérico, mais aussi la fameuse sangria pour accompagner tous ces plats. Chaque année, les touristes ne manquent pas de se régaler avec cette cuisine espagnole généreuse et délicieuse. Et n'oublions pas l'huile d'olive, puisque le pays produit plus de 40% de la production mondiale. Sache aussi que l'Espagne a le deuxième plus grand nombre de bars au monde. On quitte la table et on arrive au septième axe de rayonnement de l'Espagne qui repose sur l'industrie cinématographique. Tu penses certainement à la Casa de Papel. C'est juste, cette série qui a été tournée en Espagne a connu un immense succès ces deux dernières années. Mais le pays fait parler de lui depuis bien plus longtemps, avec notamment de célèbres réalisateurs. Le classique de chez classique, c'est Pedro Almodóvar. C'est l'un des cinéastes emblématiques de l'Espagne, qui a une renommée internationale et qui est aussi connu pour ses engagements politiques. Les femmes sont souvent au cœur de l'action dans ces films qui sont truffés de références au cinéma américain des années 50. Ici deux, trois références pour parfaire ta culture cinématographique. Femme au bord de la crise de nerfs, tournée en 1988. Talent aiguille en 1991. Douleur et gloire en 2019. Plus récemment, Netflix a montré des grands succès espagnols avec La Casa de Papel ou encore Elite. Ces séries ont été des succès à l'international et ont remporté de nombreux prix. Le quotidien ABC qualifie d'ailleurs La Casa de Papel comme la meilleure série espagnole de l'histoire. Le huitième axe de rayonnement de l'Espagne, c'est bel et bien sa langue et sa diaspora. Il est vrai que la langue espagnole pèse à l'échelle de la planète, puisque c'est la deuxième langue la plus parlée au monde en termes de natifs, et elle devance d'ailleurs l'anglais. En effet, 400 millions de locuteurs sont natifs espagnols, contre 360 millions pour l'anglais. L'espagnol est utilisé par plus de 550 millions de personnes en tout dans 90 pays. Et c'est aussi la troisième langue la plus utilisée sur Internet. Par ailleurs, l'espagnol est bien évidemment l'une des langues officielles de l'Espagne, mais aussi de la plupart des pays d'Amérique latine et d'une grande partie de la population en Amérique du Nord, puisqu'en effet, selon le Bureau de recensement américain, en 2050, environ 30% de la population des États-Unis sera d'origine hispanique. On a aussi les instituts Cervantes, où près de 18 millions d'élèves étudient l'espagnol, avec plus de 70 centres présents sur tous les continents. Ces instituts sont chargés de promouvoir la culture espagnole et d'enseigner la langue pour maintenir son influence face à l'anglais et face au chinois. Mais n'oublie pas qu'en Espagne, il n'y a pas une langue officielle, mais bien quatre. Castillan, catalan, basque et galicien sont tous reconnus officiellement. Le neuvième axe de rayonnement, c'est l'influence historique et le patrimoine architectural remarquable du pays. En effet, l'Espagne possède une histoire très riche et la culture espagnole repose sur les apports de nombreuses religions et cultures au cours des siècles. Le Siglo de Oro, du XVIe au XVIIe siècle, est l'apogée du modèle espagnol dans le monde, puisque de nombreux intellectuels espagnols contribuent à l'économie, au droit ou encore à la théologie et diffusent leur modèle de pensée au sein de l'Europe. En termes d'architecture, on peut évoquer la célèbre Alhambra de Grenade ou encore la Grande Mosquée de Séville qui illustre l'architecture de l'Andalousie dans une ère de nouveautés et de créativité. Le pays dispose par ailleurs de 45 sites classés au patrimoine mondial matériel et 11 au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, ce qui la classe à la 3e place mondiale. 10e et dernier axe de rayonnement de l'Espagne, sa littérature influente. En effet, Don Quichotte est élu en 2002 comme le livre le plus influent de tous les temps et ne cesse d'être une référence mondiale. Cet ouvrage, qui a été écrit en 1604 par Miguel Cervantes, est connu de tous et est considéré comme l'un des premiers romans en Europe. N'oublions pas le genre picaresque qui naît avec l'ouvrage anonyme La vie de Lazarillo de Tormes, qui influencera de nombreuses œuvres hors du pays, en Allemagne mais également au Mexique. Sans oublier Federico García Lorca, bien évidemment. Et voilà, tu as pu voir 10 beaux axes de rayonnement dont jouit l'Espagne aujourd'hui. Mais en guise de conclusion, on pourrait se demander s'il n'existe pas d'éléments qui nuisent au soft power de l'Espagne. Tout d'abord, la question de la corrida, par exemple, qui est un débat incessant entre le patrimoine culturel du pays et le respect des animaux. Ensuite, les tensions entre les régions ne cessent de faire parler d'elles. La question de l'indépendance de la Catalogne notamment et ses répercussions politiques ont plongé le pays dans un engouement médiatique pas forcément à son avantage. Enfin, le système politique de la monarchie et les différents scandales autour de la famille royale ont également fragilisé le soft power espagnol. Et voilà, c'est la fin de notre podcast. J'espère réellement que tu as pu y apprendre de nouveaux éléments. Je te dis à très vite sur notre chaîne de podcast Major Prépa.